special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of base. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. Now beat well.
Sundays is getting touched and scooped in my ice cream truck. Who sends it up?
Yo, honey dip, summertime, fine jury dripping. Send you a pickings with a bunch of chickens, how you clicking? I kept shooting strong notes as we got close. She rock rope, honey throat smelling like impulse.
Yo,
avec Caraïbes et d'Europe. Un rendez-vous sous le signe de la fraternité.
Littérature sans frontières avec Catherine Fruchon-Toussaint, vendredi à 13h30 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, il est 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble, le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour parler aujourd'hui de ce cessez-le-feu en Iran prolongé par les États-Unis. Cette fois, il n'y a plus de date de fin malgré les menaces de Donald Trump qui maintient en revanche le blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. Réaction de Téhéran ce matin. Le régime dit avoir intercepté 2 navires qui tentaient de passer le détroit. On essaiera d'y voir plus clair, de comprendre aussi comment fonctionnent les diplomaties iraniennes et américaines. Dans un peu plus d'une heure avec notre invité, l'ancien ambassadeur français Gérard Haraud. Au sommaire également la suspension de 360 ONG supplémentaires au Burkina Faso, essentiellement basées dans la capitale. On leur reproche le non-renouvellement de leurs instances. Détail dans Afrique Midi, à midi et demi temps universel.
RFI Midi.
Au sommaire également, un certain nombre de patrons français très remontés contre l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et son durcissement des conditions d'accueil des immigrés. Pourquoi ? Eh bien parce que les règles établies lors de son passage au ministère compliquent la régularisation de travailleurs dont certains secteurs comme la restauration ont grand besoin. On vous en dit plus dans une demi-heure. Et en Turquie, c'est une loi sur la presse qui pèse aujourd'hui sur les journalistes. Exactement comme le redoutaient les médias et les ONG au moment de son adoption, il y a 4 ans.
On marche sur la tête. Normalement, si une institution vous accuse d'avoir écrit quelque chose de faux, elle peut demander la publication d'un rectificatif. Au pire, l'étape suivante serait un procès en diffamation dans lequel chacun défend sa version. Aucun journaliste ni personne ne devrait être emprisonné pour ça.
Des journalistes en prison au nom de la loi sur la désinformation. Reportage en Turquie à écouter dans un quart d'heure maintenant. Vous avez le programme. Bienvenue. Et on commence comme chaque jour par le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Plus de temps pour négocier une fin durable du conflit. Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, salue une avancée importante vers la désescalade.
Une nouvelle fois, Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran à la demande des médiateurs pakistanais, sans donner de nouvelles dates, en attendant une possible reprise des pourparlers à Islamabad. Les principaux points en négociation portent sur le détroit d'Ormuz, le droit de l'Iran à enrichir le nucléaire et le dégel des avoirs iraniens à l'étranger. Résume le chercheur Clément Terme au micro Nicolas Falaise.
La République islamique utilise la question de l'ouverture conditionnelle ou totale du détroit d'Ormuz comme un nouveau levier dans les négociations. Le deuxième levier, c'est le dégel des avoirs iraniens à l'étranger. On parle d'une négociation qui porterait sur 20 milliards de dollars gelés à l'étranger. Et on parle également de la question des 430 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui sont aussi une monnaie d'échange, puisque les Occidentaux, et en particulier l'administration Trump, se focalisent sur cette question de l'uranium enrichi en Iran. Donc, c'est vraiment les trois aspects principaux de la négociation en cours. À cela, il faut ajouter les perspectives régionales, qui insistent, elles, sur une levée conditionnelle des fonds en fonction de la poursuite ou non du soutien de la République islamique aux auxiliaires, donc aux proxys de l'Iran au Moyen-Orient. Que ce soit le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen ou les milices chiites en Irak. Les pays de la région veulent que cette question soit également au cœur des négociations. Et enfin, les militants des droits humains souhaitent que la question de la répression soit placée aussi dans le cadre des négociations avec la libération des prisonniers politiques après des dizaines de milliers d'arrestations à la suite des massacres du mois de janvier 2026.
En attendant, la bataille navale se poursuit dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne affirment que leurs forces navales ont intercepté deux navires tentant de le franchir. Un cargo quittant l'Iran a lui aussi été stoppé. Washington continue de bloquer les ports du pays en représailles. Malgré tout, le ministère iranien de l'Agriculture l'assure, le blocus américain n'a pas d'impact sur la capacité du pays à nourrir sa population, même si les témoignages d'Iraniens pris à la gorge par la crise économique affluent.
L'oléoduc Droujba, crucial pour l'approvisionnement du pétrole en Hongrie, fonctionne de nouveau.
Oui, et on l'apprend à l'instant, il y a un premier feu vert de l'Union européenne auprès de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. L'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban, battu aux dernières législatives, bloquait le transfert d'argent tant que cet oléoduc stratégique n'était pas remis en route. Il avait été endommagé par une frappe russe en janvier.
En Russie, le monde du livre dans le viseur des autorités.
Hier, on apprenait que le comité d'enquête avait lancé une perquisition chez Exmo, la plus grande maison d'édition du pays, interrogeait le directeur général et plusieurs employés dans le cadre d'une affaire de distribution de livres liés à des sujets LGBT, un thème passible de poursuite pour extrémisme en Russie. Dans la foulée, le même comité d'enquête, aux ordres du Kremlin, s'est penché sur la littérature enfantine et les livres d'un auteur célèbre, Grigori Oster. Ses conseils malicieux aux enfants à désobéir ne passent pas à Nissa Al-Jabri.
Le très puissant Alexandre Bastrykin, chef du comité d'enquête, s'est penché sur les publications de Grigori Oster ce mardi dans le cadre d'une réunion officielle. Son intitulé « Dit tout » du regard qui va être posé. Il s'agissait d'échanger sur l'assistance à apporter aux enfants touchés, je cite, par « des catastrophes humanitaires, des catastrophes naturelles, des actes terroristes et des conflits armés ». Dans le viseur du comité, trois ouvrages, un chaton nommé Gave, 38 perroquets et conseil néfaste. Ce dernier avait déjà, selon le journal Commerçant, attiré l'attention des forces de l'ordre et été retiré de la vente en 2024 dans un magasin de Krasnoïarsk en Sibérie. Conseil néfaste est l'une des œuvres les plus célèbres d'Auster. Il conseille avec humour aux enfants de faire le contraire de ce qu'ils devraient faire. Par exemple, ne pas se laver les mains, ne pas se couper les ongles ou bien dessiner sur le papier peint. C'est discutable d'un point de vue pédagogique selon les participants. Participant à la réunion, ils ont aussi jugé qu'il fallait vérifier si le contenu ne rentrait pas dans le cadre condamnable de, je cite encore, la préparation des mineurs à la délinquance. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
C'est historique. Le Parlement indonésien a adopté une loi qui garantit des droits aux travailleurs domestiques du pays.
En discussion depuis plus de 20 ans, la loi doit poser un cadre juridique pour les plus de 4 millions d'employés de maison du pays. Victor Delfouillou.
Une adoption accueillie sous les applaudissements et les cris de joie dans l'hémicycle du Parlement indonésien. Jusqu'à présent, les travailleurs domestiques ne bénéficiaient d'aucun statut légal dans la société. Ils, et surtout elles, puisque 90% sont des femmes, étaient au cœur d'une économie informelle sans aucune protection. Dans les grandes lignes, le texte prévoit l'accès à une couverture santé et à des allocations chômage pour les travailleurs et les travailleuses, mais aussi un droit à la formation professionnelle inexistante jusqu'à présent, et surtout la loi interdit formellement d'embaucher des mineurs de moins de 18 ans, une pratique courante dans le pays. Le texte ne fixe en revanche aucun salaire minimum. Le gouvernement a désormais 12 mois pour détailler la manière dont il entend mettre en application ces mesures, et notamment les sanctions prévues pour les contrevenants, car les abus sont courants en Indonésie. Entre 2021 et 2024, une association locale avait recensé plus de 3300 cas de violences physiques ou psychologiques à l'encontre de ces travailleurs.
Victor Delfouillou.
Suite et fin des grands oraux aux Nations Unies.
Qui, pour succéder à Antonio Guterres, à la tête de l'organisation internationale, en perte de vitesse qui paraît bien impuissante à faire respecter le droit international, son mandat prend fin à la fin de l'année. La costaricaine Rebecca Greenspan et le sénégalais Macky Sall vont être auditionnés aujourd'hui.
Le Venezuela n'a pas démantelé son appareil répressif.
C'est Amnesty International qui dresse ce constat 4 mois après l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis, et ce, malgré l'instauration d'une loi d'amnistie sous la pression de Washington. De hauts dirigeants de l'opposition ont certes été libérés, 700 amnisties ont été prononcées au total, mais 500 prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux, et la célèbre prison de l'Hélicoïde qui devait fermer fonctionne toujours.
En France, le Parti Socialiste avance ses pions en vue de la présidentielle de l'an prochain.
Malgré ses divisions sur la stratégie à adopter, notamment sur une primaire à gauche, le PS a organisé ce matin une conférence de presse pour présenter une ébauche de programme, Victorien Villaume.
Les mauvaises langues diront qu'Olivier Faure a demandé la présentation dès maintenant de cette ébauche pour qu'on arrête de parler uniquement des divisions qui traversent le parti. Quoi qu'il en soit, 40 mesures sont présentées dans un petit fascicule intitulé « Projet du PS ». Le fruit de plusieurs mois de rencontres avec les Français, explique Chloé Ridel, l'eurodéputée en charge de ce travail.
Nous avons démarré par un tour de France. Nous avons rassemblé là beaucoup de matière qui a été nourrie par des contributions citoyennes, les propositions de nos élus et de nos militants, par l'expertise aussi de centaines de scientifiques, de syndicats.
Parmi les mesures, rehausser le SMIC, abroger la réforme des retraites ou encore créer un statut pour les familles monoparentales. Et si le PS est très divisé en ce moment sur la stratégie pour 2027 et que certains cadres du parti se montrent déjà critiques, cette ébauche de programme n'est pas le texte d'un clan, assure Chloé Ridel.
Il a été construit avec toutes les sensibilités. Nous avons repassé chapitre par chapitre et partie par partie l'ensemble du texte pour essayer de trouver des points d'accord qui conviennent à tous, mais la discussion n'est pas terminée.
Cette présentation est aussi un moyen pour le PS de faire taire ceux qui accusent le parti de ne pas avoir de programme, au contraire de la France insoumise. En 2024, les propositions du nouveau Front populaire étaient largement inspirées du programme de LFI.
Victorien Villaume.
Du basket et de la NBA aux États-Unis, coup dur pour le Français Victor Wembanyama, star des Spurs de San Antonio.
Lors du deuxième match du premier tour des playoffs contre Portland, il est tombé lourdement au sol, sa tête a cogné le parquet. Bonjour Frédéric Suto.
Bonjour.
Victime d'une commotion cérébrale, il est incertain pour les prochains matchs des playoffs.
Oui, les images sont impressionnantes. Hein. Le Français partait en dribble pour marquer, il a glissé, il a perdu ses appuis. Il est tombé et sa tête effectivement a tapé violemment le sol. Le Français est resté inerte quelques secondes, allongé sur le ventre. On le voit essayer de se relever, ne pas y parvenir dans un premier temps. Il a ensuite regagné les vestiaires, sans aide, mais très vite, alors que le match se poursuivait, la franchise texane a communiqué pour signifier que le protocole commotion avait été activé et que Victor Wembanyama n'était pas en mesure de reprendre le jeu. Les Spurs ont ensuite fait savoir à l'issue du match que Wemby avait pu rentrer chez lui. Il va devoir désormais observer un repos de 48 heures minimum, puis il devra passer jeudi toute une série d'examens neurologiques pour évaluer son état. Et in fine, eh bien, les médecins du club, en concertation avec la cellule commotion de la NBA, décideront s'il peut ou non reprendre la compétition. Le prochain match des Spurs, premier tour des playoffs, s'est programmé ce vendredi.
Frédéric Suto, et puis on apprend que la France organisera pour la première fois la Coupe du Monde de basket. Ce sera en 2031, Anne.
Et Karine Bellicha pour le journal. À tout à l'heure.
Radio HBR, le mix. 99.1 FM Radio HDR.
Il n'y a qu'à appuyer sur play.
C'est sur le 99.1 FM. Radio HDR.
Get out. Fight. Trouble in the streets. Watch out. Right. Jump bikes on the way. Get out. Fight. Trouble in the streets. Watch out. Right. Jump bikes out to stay.
Les enfants, un peu de radio ?
Oui.
Vous voulez écouter de la musique ? Ok.
Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
Just